RFI.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée aux Pachtounes, probablement la plus grande société tribale du monde, généralement assez méconnue, particulièrement en Occident. On parle pourtant de plus de 50 millions de personnes, voire davantage selon certaines sources qui font état d'une population atteignant les 90 millions répartis pour largement plus de la moitié au Pakistan, dans une moindre proportion en Afghanistan, population également présente en Iran où vivent près de 1,5 million de Pachtounes. Une communauté dispersée géographiquement comme le sont les Kurdes, répartis eux sur quatre pays, Iran, Irak, Syrie et Turquie, au poids politique et économique certain, tant au Pakistan qu'en Afghanistan. Plutôt méconnus donc, les Pachtounes ne s'en trouvent pas moins au centre de l'actualité internationale en raison de la région carrefour qu'ils occupent aux confins des mondes arabes, iraniens, centre-asiatiques et sud-asiatiques et des rivalités qui prévalent entre les puissances régionales asiatiques que sont la Russie, la Chine et l'Inde, sans oublier les États-Unis. Regard sur les Pachtounes, majoritaire en Afghanistan, minoritaire au Pakistan, un peuple fractionné par la ligne Durand, défini à l'époque coloniale en 1893, un peuple qui ne dispose pas de pays qui lui soit propre, même si c'est au Pakistan que se trouve le centre de gravité de la communauté pachtoune. La frontière, une question qui n'est pour l'instant pas d'actualité, mais qui pourrait le devenir, avec la priorité grandissante portée sur la lutte contre les talibans et les mouvements associés actifs dans les deux pays. Analyse avec nos invités, Alain Lambal, général de brigade, cadre de réserve, géopolitologue, spécialisé sur l'Asie du Sud, membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer et d'Asie 21, auteur de Les Pachtounes, un peuple sans pays, paru aux éditions Valeurs Ajoutées. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS et chercheur Asia Centre. Bonjour.
Bonjour.
Connus pour leur qualité martiale, les Pachtounes ont dans la période contemporaine constitué l'essentiel des effectifs des Moudjahidines qui combattirent les Soviétiques en Afghanistan et sont les plus nombreux dans les rangs des talibans pakistanais et afghans. Les Pachtounes ne sont pas pour autant tous des talibans. Quelle est la situation des Pachtounes aujourd'hui et comment expliquer que cette communauté entre 50 et 90 millions de personnes, c'est énorme comme différence de chiffres selon les sources. Comment expliquer donc que cette communauté n'ait jamais pu former une nation? En ont-ils d'ailleurs jamais vraiment eu l'intention? La question pouvant se poser quand l'on sait qu'au moment de la décolonisation survenue en 1947, les Pachtounes à l'est de la ligne Durand ont accepté que leur région s'intègre au Pakistan après avoir, il est vrai, longtemps hésité, mais sans jamais revenir sur cette décision. Alain Lambal.
Oui, c'est un peuple divisé, comme vous l'avez dit, depuis 1893, une frontière tout à fait artificielle en réalité, qui divise des tribus, qui divise même des villages. Alors il y a eu effectivement un mouvement de réunification en certains moments, mais qui n'a pas du tout abouti, et pour le moment le problème n'est pas vraiment d'actualité. Car ce que revendiquent en réalité les talibans, dont on parle évidemment beaucoup actuellement, à juste raison, ce que revendiquent essentiellement les talibans, c'est un changement de régime, aussi bien en Afghanistan qu'au Pakistan, mais ils ne revendiquent absolument pas un État pachtoun indépendant. Mais le problème demeure néanmoins, le nationalisme est sous-jacent.
Alors, quand vous dites taliban, Alain Lambal, taliban pachtoun, quelle différence dans la notion et dans l'identité? Enfin, voilà, il semble que l'amalgame est assez général.
Alors, il y a des talibans que l'on dit afghans parce qu'ils agissent en Afghanistan et ce sont des afghans, des pachtouns pour la plupart. Et puis, il y a des talibans pakistanais parce que ce sont des gens qui vivent au Pakistan qui sont aussi pour la majorité des pachtouns. Il y a évidemment des points communs entre les deux. Puisque dans les deux cas, ils revendiquent la charia, ils veulent un régime islamiste.
Jean-Luc Racine.
Oui, je crois que pour éclairer un peu ce sujet complexe, bon, d'abord 90 millions de Pachtounes, ça me paraît quand même beaucoup. Les chiffres qui circulent, c'est plutôt une cinquantaine de millions. Bon, c'est vrai qu'il y a des émigrés qui sont aujourd'hui dans le Golfe, mais en gros, on tend à dire que côté afghan, c'est un peu moins de 50% de la population, c'est-à-dire 16 millions. Mmh. Et côté pakistanais, ce serait à peu près 15%, mais 15% de 200 millions, ça fait 30 millions. Autrement dit, les Pachtounes pèsent très lourd en Afghanistan, mais les Pachtounes afghans sont moins nombreux que les Pachtounes pakistanais. Ceci étant, ils sont tous les deux à leur façon, à mon sens, héritiers d'une histoire coloniale. Mmh. La ligne Durand, c'est une création coloniale quand les Anglais, après deux guerres qu'on appelle anglo-afghanes, qui n'ont pas donné les résultats escomptés. On conclut avec l'émir d'Afghanistan un accord. L'émir allait gouverner ses terres, mais les Britanniques resteraient en position de contrôle de sa politique étrangère. Et pour faire une zone tampon entre les terres afghanes de l'émir et l'Empire des Indes, il a été décidé de laisser donc cette zone montagnarde, qui est devenue ensuite, bien plus tard, le bastion des talibans pakistanais, qui sont donc les fameuses zones tribales, les 7 agences tribales, qui encore aujourd'hui, pour une bonne part, sont en dehors du droit pakistanais, mais c'est une des questions qui est mise sur la table. Et dans ce que les historiens nous disent, et je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est que donc depuis le 19e siècle, il y a cette image des Pashtuns qui sont à la fois, on l'a dit, définis par les Britanniques, entre guillemets, comme une race martiale. Mmh. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le pourcentage de Pashtuns dans l'armée pakistanaise correspond en gros à leur poids démographique. Mais il y a aussi cette image, les tribus montagnardes, les gens bizarres, les gens dont il faut se méfier. Et ce qu'on voit aujourd'hui, à la fois au Pakistan, mais aussi dans la diaspora, et je pense à un article très intéressant qui est paru dans le New York Times il y a quelques semaines, sur ce que c'est que d'être Pashtun au Pakistan quand on est hors des terres Pashtunes. Mmh. Il y a toujours une suspicion. Est-ce que ce type est proche des talibans? Et il y a quasiment, au Punjab par exemple, un certain profilage pour trouver un logement. On a cette image un peu contrastée qui avait été mise en avant par les Britanniques, qui pour la plupart, le long de la frontière, étaient des Écossais, qui semblaient retrouver un peu de quelque chose de... Il y a Londres, mais il y a nous les Écossais, et il y a l'Empire, et il y a ces terres Pashtunes. Donc il y a ça qui reste, mais évidemment dans un contexte très particulier, puisque ces zones tribales, en quelque sorte, sont un pur héritage colonial, et qui continuent à poser un problème dont on voit aujourd'hui les manifestations, pas simplement les talibans, mais aussi ce mouvement de jeunes protestataires pacifiques qui fait parler de lui depuis le début de l'année.
Depuis le début de l'année, on peut rappeler pour nos auditeurs, en janvier, donc il y a quelques mois, le meurtre d'un jeune Pashtun qui a provoqué la création d'un mouvement pacifique et apolitique contestant les disparitions massives qui touchent les membres de cette ethnie assimilée par l'armée des talibans. Un printemps Pashtun, un début de printemps Pashtun peut-être au Pakistan, Alain Lamballe.
Alors vous faites allusion au mouvement qui s'appelle le Pashtun Tahaffuz Movement. C'est un mouvement effectivement qui est assez récent, qui s'est développé, comme vous l'avez dit, suite au meurtre d'un Pashtun à Karachi. C'est un mouvement intéressant parce qu'il est l'œuvre de jeunes, des jeunes gens et aussi des jeunes filles, ce qui est assez exceptionnel dans un pays ultra-conservateur et en particulier dans une communauté Pashtun ultra-conservatrice. Donc c'est certainement à voir. Ce mouvement accuse finalement les militaires d'avoir arrêté arbitrairement un certain nombre de gens. Et ne revendique pas pour le moment un nationalisme particulier, mais c'est tout de même à suivre. Les partis politiques s'y intéressent d'autant plus que des élections vont avoir lieu cet été au Pakistan. Il faudra donc suivre avec attention, je crois, l'évolution de ce mouvement par rapport aux partis politiques traditionnels.
Jean-Luc Racine, sur ce mouvement donc Pashtun au Pakistan.
Oui, il est très intéressant parce qu'il a sa jeunesse depuis 3 ou 4 ans, mais il s'est vraiment cristallisé sur cette figure d'un jeune homme, donc un Pashtun émigré à Karachi. Mmh. Karachi, c'est la ville qui compte le plus de Pashtun au monde, plus que Peshawar, semble-t-il, assez curieusement. Et on avait là une espèce de jeune homme donc très féru de réseaux sociaux, se mettant en scène, voulant devenir modèle. Et il avait l'allure pour ça, je dois dire, et qui a été descendu, il faut dire le terme, sous l'accusation de terrorisme. Et le succès qu'avait ce garçon sur les réseaux sociaux fait que son assassinat déguisé a cristallisé un mouvement porté par la jeunesse, largement boycotté par les télévisions, développé par les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et tout ce qu'on veut, et qui évidemment a été soupçonné par les militaires d'accointance avec les services secrets indiens et les services secrets afghans. Personne n'y croit, mais la chose intéressante là-dedans, c'est qu'on voit bien que les autorités craignent qu'à partir de ce mouvement, pacifique, mais qui a mobilisé des dizaines de milliers de gens dans un certain nombre de ces rassemblements, renaissent cette idée de nationalisme pachtoun. Ça a été dit, qui s'était manifesté en 1947 lors de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, avec la grande figure de Bacha Khan, non violent, qui a donc longuement hésité à rejoindre le Pakistan. Et plane toujours ce point d'interrogation, est-ce qu'un jour un nationalisme pachtoun pourrait revenir, qui serait transfrontalier? Or, il faut le rappeler, jamais la ligne Durand, considérée par le Pakistan comme sa frontière avec l'Afghanistan, n'a été reconnue par Kaboul, même quand les talibans afghans, qui sont venus pour l'essentiel d'une instrumentalisation pakistanaise, même quand les talibans afghans étaient au pouvoir.
Alors, cette ligne Durand, vous l'avez dit, Jean-Luc Racine, aucun gouvernement afghan ne l'a jamais reconnue comme frontière internationale. On peut rappeler que l'Afghanistan fut le seul pays au monde à voter contre l'admission du Pakistan nouvellement créé à l'ONU en 1947. Pour les autorités de Kaboul, la véritable frontière orientale de l'Afghanistan se situe sur le fleuve Indus. Le Pakistan considère, lui, que la ligne Durand est une véritable frontière internationale. Comment voyez-vous les choses évoluer cette ligne Durand côté pakistanais? Je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre. On voit le Pakistan développer des postes de contrôle, tirer des fils barbelés à l'un l'emballe. Qu'est-ce que cela laisse supposer quant à l'avenir de cette ligne tracée entre les deux pays, Afghanistan-Pakistan?
Alors, vous l'avez dit, la ligne Durand est considérée comme une frontière internationale par le Pakistan et ne l'est pas par l'Afghanistan. Alors le Pakistan est en train d'ériger actuellement une clôture tout le long de cette ligne Durand, avec des postes de contrôle tous les 2-3 kilomètres, ce qui en fait véritablement une frontière. Le gouvernement afghan n'admet pas du tout la construction de cette clôture, parce que évidemment ça concrétise une frontière internationale, mais pour le moment on ne peut absolument rien faire contre l'armée pakistanaise, bien évidemment. Alors le but de l'armée pakistanaise, c'est d'arrêter en principe les infiltrations qui se font à travers cette frontière extrêmement poreuse, mais en réalité ça n'empêchera pas les gens de passer, parce que il y a certains endroits où aucune clôture ne peut être faite du fait de la configuration du terrain, tout simplement, quoi.
Alors, Jean-Luc Racine, une frontière poreuse, aussi bien pour les populations pachtounes que pour tout ce qui est commerce. Je veux dire, le passage de l'Afghanistan au Pakistan et inversement, il y a presque une fluidité.
Oui, tout ça n'avait jamais posé de problème autre que politique avant l'émergence des talibans et les contre-coups de cette émergence. Commerce, contrebande, on appelle ça comme on veut, les deux ont prospéré de longue date. Je ne pense pas que le régime de Kaboul ait vraiment revendiqué les terres pachtounes du Pakistan, mais le fait de refuser de reconnaître la frontière laisse planer un point d'interrogation qui servait finalement un Afghanistan plus faible par rapport à un Pakistan plus fort. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la façon dont les militaires pakistanais ont décidé, ça s'était conçu dès le général Musharraf, de solidifier en quelque sorte cette frontière, c'est qu'on a eu une manière de retournement assez ironique, si j'ose dire, puisque de longue date, les autorités afghanes et les Américains, après leur intervention suite au 11 septembre en Afghanistan, se sont plaints des sanctuaires talibans érigés dans la zone pakistanaise, alors qu'aujourd'hui, c'est le Pakistan qui se plaint, à l'inverse, d'infiltration de talibans pakistanais dans les zones troubles d'Afghanistan, qui reviennent au Pakistan pour faire des attentats. Donc, c'est pour une bonne part la raison qui explique que les relations entre Islamabad et Kaboul soient toujours délicates.
Délicates, c'est un euphémisme, Alain Lamballe?
Oui, c'est évident que les relations sont toujours très mauvaises. Et parfois, d'ailleurs, depuis l'indépendance du Pakistan, la frontière a été fermée entre les deux pays. Des consulats également ont été fermés. Il y a effectivement des récriminations de part et d'autre, et je crois que ce problème restera sous-jacent. Alors je disais tout à l'heure que la frontière était poreuse, elle le restera, parce que dans certaines régions, notamment au nord, dans la région de Chitral par exemple, les passages continuent de se faire de part et d'autre. Mmh. Il y avait auparavant des mouvements considérables de nomades, ça a pratiquement disparu, mais les populations continuent de circuler de part et d'autre de cette ligne. Moi je me souviens être allé à l'ouest de la ligne de Chitral et avoir vu des gens traverser la frontière, et d'après ce qu'on me dit, ça continue encore là-bas. Quoi. Il y aura toujours des mouvements, parce que ces gens-là appartiennent finalement aux mêmes tribus. Parfois même, il y a d'ailleurs des jirgas qui se réunissent et qui comprennent des gens venant du Pakistan et de l'Afghanistan. Et ils discutent entre eux de problèmes fonciers. Il y a des pachtounes originaires du Pakistan qui ont des propriétés en Afghanistan. Mmh. Donc vous voyez, la ligne du rond, finalement, c'est extrêmement artificiel. Mmh. Quoi. Même s'il y a cette clôture qui la concrétise pour le moment. Quoi.
Bon, et la question qui se pose, c'est la ligne du rang, vraie frontière en séparant les Pachtounes, est-ce que c'est viable? D'ailleurs, les juristes divergent sur sa validité, la validité de la ligne du rang. Et j'ai cette question, Jean-Luc Racine, ou peut-être Karim Pagzad qui vient de nous rejoindre. Karim Pagzad qui est chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Afghanistan, de l'Iran et de l'Irak. Bonjour.
Bonjour.
Donc je le disais, les juristes divergent sur la validité de la ligne du rang. Et d'ailleurs, comment expliquer que ni Kaboul, ni Islamabad n'aient jamais sollicité l'avis des Nations Unies?
Oui.
Karim Pagzad.
Il y a une raison simple, au-delà des questions juridiques. La ligne du rang, c'est une question éminemment politique. Il faut d'abord dire que les Pachtounes, contrairement à d'autres communautés ou ethnies comme les Kurdes, hein, où ils n'ont jamais eu leur État,
oui,
les Pachtounes avaient leur État avant d'être divisés. C'est ça la particularité des Pachtounes. C'est-à-dire les Pachtounes ont fondé leur État 2 siècles avant la création même du Pakistan. Et c'est par la suite, après la division de l'Inde, de ce continent indien par les Britanniques, que les Pachtounes ont perdu une partie de leur territoire au profit du Pakistan. En ce qui concerne la ligne du Rhin, comme vous le savez, l'Afghanistan, au cours du 19e siècle, était en conflit, était en guerre à plusieurs reprises contre ce qu'on appelait l'Empire britannique en Inde. Et parfois, il gagnait la guerre, mais parfois, il perdait. À la fin du 19e siècle, ils avaient installé un roi qui s'appelait Abdurrahman Khan, tout en reconnaissance l'autonomie ou l'indépendance interne de l'Afghanistan, les Britanniques ont imposé à ce roi de diriger leurs relations extérieures. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont tracé la ligne du Rhin. La ligne du Rhin, évidemment, il y a des divisions entre les juridiques, et notamment du côté d'Afghanistan qui n'a jamais reconnu cette ligne.
Tout à fait, on l'a déjà évoqué, oui.
Il prétend qu'en fait, de toute façon, cette ligne a été mise en place pour un siècle, pour 100 ans. Et donc
en 1993, elle aurait dû...
Voilà. En fait, c'est faux, ça.
Les arguments sont énormément divergents. Mais le plus important, pourquoi vous avez posé une question, pourquoi le Pakistan n'a jamais soulevé la question de ligne du Rhin?
Oui.
Parce que, dans le fait, cette ligne frontalière est une ligne internationale. Le Pakistan a été reconnu par les Nations Unies dans ses lignes frontalières actuelles, à savoir à l'ouest, la ligne du Rhin. Et tous les pays, même aujourd'hui les Américains qui sont présents en Afghanistan ou que quelque part vraiment dominent la politique extérieure de l'Afghanistan, ils n'ont pas mis en cause cette ligne. Le Pakistan n'a aucun intérêt à revenir sur quelque chose qui, d'après eux, est acquise. Alors qu'en Afghanistan, l'opinion est partagée. Tout le monde n'est pas d'accord avec les gouvernants pachtounes. L'Afghanistan toujours à vous, avec quelques intermèdes de quelques mois, toujours à vous des rois pachtounes, parce que c'est un pays fondé par les pachtounes, dirigé par les pachtounes. Mais les autres ethnies, les autres forces politiques appartenant à différentes ethnies, ils sont pour la reconnaissance de la frontière du Rhin. Voilà ce qu'on ne connaît, on sait pas ici aujourd'hui. C'est-à-dire que la ligne du gouvernement de ne pas reconnaître cette ligne n'est pas partagée par l'ensemble de la population afghane.
La ligne du Rhin, je crois que nous en reparlerons dans la deuxième partie de l'émission géopolitique. Nous retrouvons nos invités Karim Pagzad, Jean-Luc Racine et Alain Lambal dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les Pachtounes, probablement la plus grande société tribale du monde, généralement assez méconnue, particulièrement en Occident. On parle pourtant de plus de 50 millions de personnes. Nous retrouvons nos invités, Alain Lamballe, général de brigade, cadre de réserve, géopolitologue, spécialisé sur l'Asie du Sud, membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer et d'Asie 21, auteur de « Les Pachtounes, un peuple sans pays », paru aux éditions Valeurs Ajoutées, Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Afghanistan, de l'Iran et de l'Irak, et Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS et chercheur à Asia Centre. Peut-être pour cette deuxième partie d'émission, comprendre en quoi la question Pachtoune, en quoi son futur nous concerne tous. C'est une ethnie confondue dans les médias et l'opinion publique avec les talibans eux-mêmes. Qu'en est-il réellement? Comment comprendre l'implication dans le terrorisme local, régional et international de cette communauté Pachtoune? Karim Pakzad.
Oui, puisque j'étais impliqué dans cette histoire à ce moment-là, pendant la résistance à l'occupation soviétique, ce que les Afghans l'appelaient djihad, les partis Pachtounes étaient tous de rite sunnite, hanafite. Tout particulièrement l'implication de l'Arabie saoudite dans le soutien aux Mujahideen a été concentrée à ces partis. Parallèlement à ce soutien, le mouvement wahhabiste s'est développé au sein de ce mouvement, certains partis ouvertement, comme une des trois parties islamiques, ouvertement se réclamaient de wahhabisme. C'est à ce moment-là que le jeune Osama Ben Laden a été envoyé par l'Arabie saoudite et par les États-Unis pour recruter les bénévoles arabes et soutenir la résistance afghane ou les mujahidines afghanes. On a mis en place le premier élément de ce qu'on a assisté plus tard, à savoir la création des talibans, l'Al-Qaïda et Daesh. Tout a commencé à ce moment-là et au sein des Pachtounes. Depuis 2 ans, avec l'apparition de Daesh en Afghanistan, le mouvement des talibans, c'était une variante du mouvement islamiste radical, était composé uniquement des Pachtounes. C'est la raison pour laquelle Al-Qaïda a été fondée au sein des régions Pachtounes. À part des éléments arabes de Al-Qaïda, des Afghans Pachtounes qui ont été formés par Osama Ben Laden, qu'ensuite ils sont allés en Irak fonder la branche irakienne d'Al-Qaïda, que par la suite, encore avec le soutien de l'Arabie saoudite, ils se sont transmis à Daesh. C'est la raison pour laquelle les Pachtounes se trouvent au centre de ce qu'on appelle aujourd'hui le danger islamiste radical avec ses variantes qui va de l'islamisme radical au terrorisme.
Alors, on l'a dit, c'est une communauté, les Pachtounes, une communauté de plus de 50 millions d'habitants. Jean-Luc Racine, Alain Lamballe, tous les Pachtounes ne sont pas des talibans. Et que dire aujourd'hui de l'implantation de Daesh? Je sais que le drapeau noir de l'État islamique commence à flotter dans certaines provinces afghanes Pachtounes. Est-ce qu'il en est de même au Pakistan, Alain Lamballe?
Non, pour le moment, je crois que Daesh n'est pas omniprésent, bien sûr, au Pakistan, mais il y a quand même des signes inquiétants, effectivement. Alors, Daesh, c'est un petit peu bizarre qu'il arrive à s'implanter dans cette région, parce que Daesh a une vision mondiale. Il veut évidemment imposer un système radical islamiste dans le maximum de pays du monde, alors que les talibans afghans, comme les talibans pakistanais, ont une vision régionale. Ils veulent installer certainement un régime islamiste, mais en Afghanistan et au Pakistan seulement, et non pas ailleurs. Alors c'est un mouvement Daesh qui est effectivement inquiète la communauté internationale, qui inquiète l'Asie centrale toute proche. L'Asie centrale est extrêmement inquiète par tout ce qui se passe évidemment en Afghanistan, en particulier par le phénomène Daesh. Alors le fait que Daesh est obligé de se replier de Syrie, eh bien évidemment, pousse davantage de gens à venir vers d'autres théâtres d'opération, et en particulier le théâtre afghan. Daesh a davantage de chances de s'implanter peut-être en Afghanistan qu'au Pakistan, parce qu'au Pakistan, quand même, l'armée est extrêmement solide, ce qui n'est pas le cas du côté afghan. C'est un phénomène à suivre, mais pour le moment, je crois quand même pas que Daesh ait le dernier mot, me semble-t-il, même en Afghanistan. Mais il y a des dissensions qui se font entre les talibans afghans et Daesh, d'après ce qu'on entend parler ici et là.
Jean-Luc Racine.
Moi, je serais plutôt de l'avis que une bonne part de ce qui s'est revendiqué comme Daesh en Afghanistan, comme aussi au Pakistan, ce sont des gens du cru. je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un certain nombre après la chute de Raqqa de militants qui soient revenus, et je pense en particulier à certains ouzbeks, et on sait que le mouvement islamique d'Ouzbékistan avait des liens étroits avec le Mollah Omar, les gardes du corps, des leaders talibans pouvaient être ouzbeks, tout ça. Mais fondamentalement, passer du drapeau blanc des talibans au drapeau noir de Daesh, ça s'est fait fondamentalement dans la province de Nangarhar, proche de la ligne du rang, côté afghan, essentiellement par des talibans pakistanais en rupture de ban qui avaient été chassés lorsque l'armée pakistanaise a décidé, à partir de 2014, mais surtout à partir de 2015-2016, de nettoyer, entre guillemets, les zones tribales. Et donc, ces gens ont passé la ligne du rang dans des zones mal contrôlées, et c'est là où il y a eu des scissions à la fois au sein des talibans pakistanais, pour l'essentiel Pashtun, des talibans afghans, pour l'essentiel Pashtun. Ce qu'il faut noter quand même aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus simplement sur cette zone de la province de Nangarhar. Les attentats se multiplient, parfois très loin de la ligne du rang, et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une manière de compétition terroriste entre les talibans et Daesh, les cibles n'étant pas toujours les mêmes. Ceux qui visent les chiites, c'est essentiellement Daesh, beaucoup plus que les talibans. Mais tout ça ne doit pas nous faire oublier que si les Pashtuns sont importants, c'est pas simplement pour la question du terrorisme, c'est aussi plus profondément en quelque sorte parce que se joue entre Pashtuns et non-Pashtuns la question de qui dirige l'Afghanistan. Il faut se rappeler que lors des dernières élections présidentielles, après le départ d'Hamid Karzai qui avait fait ses deux mandats, les élections ont été jugées un peu bizarroïdes, si j'ose dire, et ce sont les Américains qui sont intervenus pour sceller une manière d'accord entre Ashraf Ghani, Pashtun, et le numéro 2, mais qui avait peut-être été numéro 1 aux élections, personne ne le sait véritablement, Abdullah Abdullah, qui lui est un mélange, si j'ose dire, de Pashtun et de Tadjik, mais qui pour les Pashtuns purs et durs va apparaître comme étant un Tadjik. Et là, on retrouve évidemment ce qui avait été une division géopolitique lors de l'insurrection des Moudjahidines contre les Soviétiques, avec les Pakistanais soutenant les Moudjahidines Pashtuns et les Afghans soutenant les Tadjiks et en particulier le commandant Massoud. Donc on retrouve aujourd'hui derrière tout cela l'espèce de grand jeu qui fait que le Pakistan ne veut pas être pris en tenaille entre l'Inde d'un côté et un régime afghan qui serait pro-indien. Et les Indiens, qui eux continuent de vouloir être présents en Afghanistan essentiellement sur le plan économique, pas vraiment sur le plan militaire, et avec des accusations réciproques d'espionnage, de manigances diverses et variées, la faiblesse du gouvernement d'Ashraf Ghani pose véritablement question aujourd'hui, d'autant plus que, en principe, les nouvelles élections pour les députés afghans devraient avoir lieu d'ici quelques mois et la présidentielle l'année prochaine.
Alors, puisqu'on est dans le contexte régional, Karim Paghzad, quel rôle jouent les voisins de l'Afghanistan et du Pakistan et les grandes puissances, et quels intérêts ont chacun dans l'évolution ou le maintien du statu quo? Je parle là et on y revient, la ligne du rang. Donc il y a plusieurs pays présents ou influents, l'Iran, la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Inde. Ça fait des intérêts divergents selon de qui l'on parle, Karim Paghzad.
Oui, et ils ont des intérêts divergents, mais certains d'entre eux ont des intérêts convergents. Je m'explique, à part le Pakistan, qui évidemment a créé les talibans, il a créé le Taliban avec le soutien financier de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis et le soutien politique des États-Unis et de la Grande-Bretagne en 1974. On met à côté. Mais à partir du développement de la situation, notamment depuis ces 18 dernières années après l'intervention américaine, et puis le retour bien renforcé des talibans jusqu'à aujourd'hui qui contrôlent directement ou indirectement plus de 40% de territoire afghan. Ils ont occupé la capitale de Farah, province importante dans le sud-ouest, et ils ont rentré dans la ville de Pulkhumli, dans le nord de l'Afghanistan. Bon, depuis cette année, ces années-là, aussi bien la Chine que la Russie, que l'Iran n'étaient pas opposés vraiment à la présence des Américains. Quant à la Russie, qui voyait un danger pour le développement de l'islamisme radical à partir de l'Afghanistan, qui menacerait les républiques d'Asie centrale, était même très favorable à la présence américaine. Mais depuis l'élection de Donald Trump, la situation a complètement changé. Aujourd'hui, tout le monde sait que les Américains ne sont pas essentiellement en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme, contre les talibans, mais c'est pour des intérêts géopolitiques, géostratégiques à long terme. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a une quasi-unité de vue entre l'Iran, la Russie et la Chine qui ont commencé même à discuter avec les talibans. En ce qui concerne la Russie et la Chine, ils ont invité à plusieurs reprises d'une manière quasi officielle les délégations des talibans, parce que ces pays-là maintenant redoutent l'implantation à long terme des Américains en Afghanistan. Mais Pakistan, il y a un autre problème. Pakistan, à tort ou à raison, mais pourquoi pas à raison, il soupçonne l'Inde de soutenir le mouvement séparatiste baloutche. Parce qu'il faudrait savoir qu'au Pakistan, il y a un mouvement séparatiste baloutche très ancien, qui n'a pas un caractère islamiste, mais plutôt un mouvement nationaliste baloutche, et que l'Inde était soupçonnée de soutenir ces mouvements pour déstabiliser le Pakistan. Vous voyez, sur ce point-là aussi, la situation est très compliquée.
Très complexe, et ce que l'on peut dire, Alain Lamballe, c'est que le retour des États-Unis, il devait y avoir un désengagement. Non seulement ce désengagement a été freiné, mais en plus il est question de revenir avec davantage de troupes. C'est particulièrement pour contrecarrer les projets expansionnistes entre guillemets de la Chine. C'est-à-dire que Donald Trump a tout de même compris que en Afghanistan se jouaient beaucoup de choses.
Alors les intérêts des Américains en Afghanistan, évidemment, s'explique par plusieurs raisons. Ils ne veulent pas perdre, et ils ont quand même donné l'impression d'avoir perdu. Et ils ne veulent pas perdre, ils ont 8000 hommes pour le moment qui sont encore en Afghanistan, alors qu'ils ont eu jusqu'à 100 000 pratiquement. Et ils veulent effectivement augmenter leurs effectifs militaires, mais ça n'ira jamais très loin. De toute façon, il n'y a pas de solution militaire, à mon avis. Alors les Américains s'intéressent donc à l'Afghanistan parce qu'ils ne veulent pas perdre, parce qu'ils veulent évidemment aussi limiter le terrorisme, ce qui est une aberration, parce que de toute façon, le terrorisme peut se développer ailleurs. Et puis effectivement, ils ont également l'intention peut-être de contrer un petit peu la Chine, qui s'intéresse de plus en plus à l'Afghanistan, pour différentes raisons. D'abord parce qu'ils veulent créer un corridor économique reliant le Xinjiang à la mer d'Arabie, qui passerait par le Pakistan essentiellement par les zones pachtounes. Et ils envisagent aussi, les Chinois, de développer les communications entre le Xinjiang et l'Afghanistan à travers le corridor de Wakhan. Alors le corridor de Wakhan est un corridor extrêmement montagneux, difficile, mais malgré tout, il y a, paraît-il, des projets de construction de routes et de voies ferrées qui permettraient de relier le Xinjiang donc à l'Iran par le nord de l'Afghanistan. Donc les intérêts de la Chine sont extrêmement importants. Les États-Unis essayent de contrer peut-être cette influence chinoise qui se manifeste de plus en plus. Les Chinois maintenant ont un haut représentant AFPAC, comme on dit, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a eu des représentants AFPAC américain, français même à certains moments, britannique. Maintenant, il y a un représentant AFPAC pour la Chine. Donc la Chine s'intéresse de plus en plus, bien sûr, à l'Afghanistan, en particulier parce qu'ils sont extrêmement présents de plus en plus au Pakistan.
Alors AFPAC, bien sûr, pour Afghanistan-Pakistan. Jean-Luc Racine ?
Oui, en fait, le jeu est plus compliqué parce qu'il y a une multiplication d'initiatives internationales pour amener les talibans afghans à la table de négociation avec Kaboul. Et dans cette affaire, les délégations talibanes qui ont été évoquées tout à l'heure les délégations, ça peut être quelques personnes, c'est pour prendre contact, hein, c'est pas pour négocier autour d'une table. Il y en a qui sont allés en Chine au Xinjiang, il y en a qui sont allés à Moscou, il y en a qui sont allés à Téhéran. Enfin, il faut se rappeler qu'il y en a qui sont venus à Chantilly, il y en a qui sont allés en Allemagne, et je me demande même s'il y en a pas qui sont allés au Japon. Mais ce qu'on voit, c'est que ce qui a été la main tendue par Ashraf Ghani, le président afghan, pour renouer le dialogue avec les talibans, a échoué. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a des divergences au sein du mouvement taliban. En théorie, la délégation talibane basée dans le Golfe est censée avoir la main sur les négociations, mais on sait qu'elle n'a pas une main unique. Mmh. Elle-même est en contact avec les Américains. Et il faut se rappeler que en juillet 2015, ce qui a été la première réunion véritablement prometteuse organisée dans la ville de Murree au Pakistan, pas très loin d'Islamabad, entre des représentants talibans afghans, des représentants de Kaboul, des Pakistanais, se faisait avec autour de la table des observateurs américains et chinois. Donc chacun défend ses intérêts économiques, les Chinois entre autres, sur cette mine de cuivre, l'une des plus grandes mines du monde, mais qui n'ont pas été en mesure d'exploiter parce que la situation sécuritaire est ce qu'elle est. Mais chacun joue sur le grand jeu une fois de plus, mais en même temps, il me semble qu'il y a des intérêts convergents pour une stabilisation de la situation afghane que personne n'arrive véritablement à façonner.
Alors, stabilisation de la situation afghane et puis plus généralement stabilisation de la région. Alors, dans votre ouvrage, Alain Lamballe, vous évoquez cinq scénarios possibles pour stabiliser cette région du monde, ou en tout cas tenter de le faire. Premier scénario qui aboutirait à la réunification des régions pachtounes, afghanes et pakistanaises dans un grand Afghanistan sous contrôle taliban, dans un premier temps. Deuxième scénario, un grand Pakistan. Troisième, création d'un État pachtoun indépendant, donc un Pachtounistan. Il est clair que le deuxième et le troisième scénario aboutiraient à un démantèlement de l'Afghanistan et de la disparition finalement de la ligne du rang. Quatrième scénario, un regroupement des seules provinces pachtounes de l'Afghanistan actuel et en parallèle le regroupement en une seule entité administrative de toutes les régions pakistanaises. Il y aurait donc un double regroupement de cette manière-là. Cinquième scénario, le statu quo. La question qui se pose, c'est finalement que pensent les Pachtounes afghans et pakistanais par rapport à cette situation. Et on a deux minutes pour conclure.
Et les autres afghans.
Et pakistanais, Karim Pakzad, et après ça chacun. Donc une réponse très rapide.
Si non, évidemment, il y a eu un changement fondamental dans l'histoire de l'Afghanistan. C'était l'invasion soviétique. Pour la première fois, les ethnies tajiks, ouzbeks, hazaras qui étaient aux premières lignes de la résistance contre un envoyeur étranger, alors qu'au siècle précédent, c'était des Pachtounes. Depuis cette date-là, le pouvoir exclusif des Pachtounes est contesté par d'autres ethnies afghanes qui, dans l'ensemble, font la majorité de la population afghane.
Alain Lamballe et Jean-Luc Racine.
Alors pour le moment, je crois que le scénario le plus vraisemblable, c'est tout simplement le statu quo, c'est-à-dire le maintien de la ligne du rang. Mais on peut quand même penser peut-être que les Ouzbeks, les Tadjiks auraient tendance à se rapprocher de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. C'est assez peu vraisemblable, mais c'est une hypothèse possible. À ce moment-là, le nationalisme pachtoun pourrait relativement. Enfin, je crois vraiment que le scénario le plus vraisemblable, c'est le maintien du statu quo, c'est-à-dire le maintien de la ligne du rang.
Jean-Luc Racine.
Oui, je crois aussi que le statu quo est l'hypothèse la plus plausible, mais les interrogations qui sont posées renvoient à une grande question. Quelle est la place de la tribu chez les Pachtounes, mais pas seulement chez les Pachtounes? Et là, il y a un débat chez les experts en disant, est-ce que le nationalisme afghan existe? Et il y en a qui répondent, oui, il existe. Et à ce moment-là, s'il existe, c'est un argument supplémentaire pour le statu quo.
Karim Pakzad.
Quelques secondes, ce que M. Racine a dit, c'est important. C'est-à-dire, il existe un peuple qui s'appelle peuple afghan. On vient d'assister à la mise en place d'une grande coalition politique qui comprend des chefs Pachtounes, des chefs de Nangarhar et de Kandahar, c'est-à-dire des tribus Durrani, qui est la plus importante tribu des Pachtounes, avec des Tadjiks, avec des Ouzbeks et avec Ouzbeks, qui contestent la façon dont l'Afghanistan est gouverné par Ashraf Ghani, qui est actuel président.
Et en ce qui concerne le Pakistan, on aura l'occasion d'y revenir avec les prochaines élections. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Alain Lamballe, général de brigade, cadre de réserve, géopolitologue spécialisé sur l'Asie du Sud, membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer et d'Asie 21, auteur de Les Pachtounes, un peuple sans pays, paru aux éditions Valeurs Ajoutées, Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Afghanistan, de l'Irak et de l'Iran, et Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS et chercheur à Asia Centre. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte.